Moi, je suis André de Mouchma, locataire oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Thierry de Lukumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de les présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre à nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen. Le pont sur la rivière Simuliki au sud-est de Beni, reliant Kasindi et les villes de Beni Butembo, s'est effondré depuis une semaine au passage d'un camion de marchandises. Des dizaines de poids lourds remplis de marchandises transitent habituellement chaque jour par cette route. Le gouverneur Julien Paluku a dénoncé le fait que le véhicule à la base de l'effondrement de cet ouvrage transportait frauduleusement plus de 120 tonnes au lieu du poids maximum autorisé des 500 tonnes. Cette affaire relance le débat sur le respect des normes dictées par l'État relatives au trafic routier en RDC. Qu'en pensez-vous? Rejoignez-nous au 081-890-6315 pour vos interventions en direct. Le débat se tient également sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Sylvain Matondou est à la mise en onde de ce magazine. Julie Fezabongonda est au standard. Jérôme Guimbois sur la réalisation et la coordination. Et Pierrot et la Meiji vous le présente sous la supervision de Martin Sebujango Fidel. Les auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiotapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
La problématique du respect des normes édictées dans les domaines de circulation routière, le respect des tonnages, que ce soit sur les routes, pour traverser les ponts, la question est au centre de notre échange. C'était parti de l'écroulement de ces ponts sur la rivière Simuliki au sud-est de Beni, dans la province du Nord Kivu, selon le gouverneur Julien Paluku, qui a dénoncé ces faits, les véhicules qui a provoqué l'effondrement de ces ponts, transporté frauduleusement près de 120 tonnes de marchandises au lieu du poids maximum qui est autorisé à 500 tonnes. Alors, comment arriver à faire respecter ces différentes normes, surtout dans ces domaines des transports routiers, les camions, les bus, les taxibus, tout ce qui roule sur nos routes, tout ce qui traverse les ponts, comment arriver à respecter tout cela? C'est la question au centre de notre échange. Vous pouvez intervenir en direct à 0081-890-6315. Merci d'être avec nous. D'un moment à l'autre, nous allons voir en ligne Bertel Toumba, qui est le président de l'association pour la promotion de l'écologie et la normalisation en RDC. Mais en attendant, Alain Bolodua, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes avec nous. Alain, merci de nous avoir rejoints pour cette intervention. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Radio Okapi, bonjour à tout le monde.
On vous écoute, Alain.
Oui, moi, je suis quand même surpris de voir l'attitude qu'affiche aujourd'hui le gouverneur. En principe, lorsqu'on parle de la gouvernance, eh bien, on voit une gestion prévisionnelle. On devait plutôt anticiper au lieu de subir et puis de réagir par la suite. Et si la norme exige à ce qu'il y ait tonnage ne dépassant pas 60 tonnes, eh bien, la moindre chose serait de veiller à ce que le tonnage soit respecté pour ne pas assister à ce genre de spectacle désolant. Hein, j'aurais souhaité qu'il puisse au moins se reprocher du fait qu'il n'a pas su protéger le patrimoine de l'État, tout simplement parce que en tant que gouverneur, c'était ça sa mission. Et aujourd'hui, cherchant à se victimiser, il donne l'impression comme si il n'avait pas donné assez d'importance à cette réalité. Toute une population aujourd'hui doit être pénalisée tout simplement parce qu'on n'a pas su mettre en application des dispositions législatives ou réglementaires par rapport à la gestion de nos routes, de nos ponts. Aujourd'hui, nous assistons à ce genre de désastre tout simplement parce qu'on n'a pas fait un suivi correspondant au souci même de préserver cette réalité. Moi, je me souviens quand j'ai fait la route, je crois, numéro 4, si je m'abuse, au niveau de Pont Epoulou, vers Ituri, J'ai vu qu'on nous avait obligé de descendre du bus pour qu'on se rassure du poids qui devait supporter le pont. Mais je suis surpris de voir qu'un camion qui a doublé pratiquement le poids exigé et qui a pu quand même traverser, et lorsque nous voyons la photo de ces camions, et bien le camion effectivement ne pouvait pas avoir 60 tonnes de l'eau, qui avait deux engins pratiquement. Donc quelque part, la faiblesse était plutôt au niveau des décideurs, des gens qui devraient en principe veiller sur l'exécution de cette disposition. Ils ont failli à leur mission. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit chercher à se justifier.
Alain, s'il vous plaît, est-ce que le problème aujourd'hui n'est pas dans une considération juridique générale dans le respect des normes? Disons quand même qu'il y a une norme qu'on ne peut pas traverser le pont avec plus de 60 tonnes, et alors là on a un camion de 120 tonnes. Cela veut dire qu'il y a la responsabilité du pouvoir public pour faire respecter la norme, mais aussi la responsabilité citoyenne. Vous savez qu'avec plus de 60 tonnes, je peux faire endommager ce pont, mais vous, citoyens, quand même, vous vous engagez à charger plus de 120 tonnes pour pouvoir traverser un pont. Là, il y a aussi un problème de responsabilité citoyenne dans le respect des normes qui sont édictées par le pouvoir public.
Moi, en fait, ce qui est vrai, la personne qui a occasionné cet accident n'est pas exemptée ou exonérée de peine. Mais ce qui est vrai aussi, nous ne pouvons pas nous fier à la bonne foi des gens. Voilà pourquoi il y a des normes, voilà pourquoi il y a des sanctions. On devrait en principe éviter à ce que cette personne qui est animée par l'esprit mercantiliste puisse profiter de la naïveté ou de la faiblesse de la communication pour occasionner cette crise. On aurait pu le sanctionner avant même qu'il arrive, l'arrivée au niveau de ses ponts pour que nous n'assistons pas à cette réalité. C'est vrai que lui, il a profité de la période de l'administration, mais aujourd'hui, c'est toute la population qui en pâtit, tout simplement parce que l'administration a été trop large. On doit apprendre à sanctionner et à faire respecter nos lois.
Merci.
Au cas contraire, nous risquons d'empathie, voilà. Et tout le monde risque de porter les stigmates de la responsabilité.
Merci beaucoup, Alain. Vous estimez que c'est la question d'avoir des normes qui sont édictées, mais de pouvoir le faire respecter et arriver aussi à sanctionner. Notre invité est en ligne avec nous, Bertin Toumba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Bertin Toumba, bonjour.
Bonjour, je vous écoute très bien, monsieur le journaliste.
Voilà, vous êtes le président de l'Association pour la promotion des métrologies et la normalisation en RDC. Alors, comment vous réagissez quand on parle d'un camion qui devrait en principe transporter 60 tonnes et qui dépasse la norme pour transporter 120 tonnes et provoquer l'effondrement de ces ponts? Alors, vous qui militez pour qu'on arrive quand même à avoir des normes dans presque tous les domaines, comment vous réagissez à cet incident?
Bon, cet incident rappelle bien les motivations qui ont conduit à la création de notre organisation. Nous avons constaté que dans notre pays, on parle plus de normes quand il y a des catastrophes. Donc, ça c'est aussi une reconnaissance implicite que les normes sont des outils qui peuvent aider à prévenir ce genre de choses. Donc, les normes sont très importantes, surtout dans des domaines aussi sensibles que la construction des infrastructures de base.
Mais alors, quand on regarde aujourd'hui ce qui est arrivé, il y a un camion qui devait avoir transporté 60 tonnes et qui transporte 120 tonnes. Alors, le problème en amont devrait se situer à quel niveau dans le respect de cette norme?
D'abord, au niveau de la construction du pont, est-ce que le pont a été construit selon les normes? Est-ce que les études préalables ont été faites avant de lancer ce pont-là? Est-ce que le constructeur avait prévu des périodes de vérification de stabilité de ce pont? Est-ce que il y a des problèmes de signalisation? Parce que là, vous interpellez le conducteur, il a respecté. Est-ce qu'il y a un panneau de signalisation par rapport à la charge maximale à ne pas dépasser? Est-ce que les denrées qu'ils transportaient, est-ce qu'ils ont été conditionnés sur les normes? Tout ça, c'est des problèmes qui justifient tous ces problèmes que nous avons. Donc, en amont, il y a d'abord l'élaboration de ces normes sur la construction, il y a les normes sur le conditionnement même des barres de base, les sacs de manioc qui devaient être transportés, étaient de quel poids, vous voyez ça. Enfin, les gens se trouvent devant des sacs qu'ils ne savent pas eux-mêmes quantifier, parce qu'en amont, il n'y a pas de normes du tout.
Et quand vous dites qu'en amont, il n'y a pas des normes qui sont édictées, alors comment on peut arriver aujourd'hui à organiser ces domaines des normes comme ça? On sait quand même qu'on s'est conduit sur base des normes qui sont vulgarisées, connues par l'ensemble de la population, que ce soit en termes de construction des infrastructures, comme vous l'avez dit, mais aussi en termes de produits, de poids, de ce qui doit être transporté sur les infrastructures qui sont construites.
La procédure pour établir les normes n'est pas très compliquée. Et surtout aujourd'hui, où on n'est pas appelé à inventer la roue. Les normes internationales existent, les normes régionales dans le cadre des règlements régionaux comme ça, comme ça existe. Il est juste question de réunir les parties prenantes. Et dans le cas d'espèce, la principale partie prenante, c'est le ministère des infrastructures, qui a en son sein des outils comme, par exemple, des grands travaux, l'office des routes, et beaucoup d'autres structures qui devaient avoir ce référentiel-là, qui est accepté par toutes les parties prenantes. Après avoir établi ces normes-là, elles doivent être disponibles. Mm-hmm. Et quand c'est des normes très techniques, nous devons nous atteler à trouver des guides de mise à l'œuvre de ces normes-là. Mm-hmm. Donc ça, c'est une lacune grave dans notre pays.
Voilà, on va revenir à vous. Vous avez évoqué la responsabilité du ministère des Infrastructures. On a vu dernièrement l'Agence des Grands Travaux l'année passée, rappelons, qui avait organisé des formations sur le respect des normes ISO 2000 et dans l'élaboration des infrastructures. On pourra voir quelle pourrait être l'implication de ce genre d'initiative sur la qualité des ouvrages, mais aussi comment les citoyens peuvent-ils arriver vraiment à utiliser tous ces ouvrages en respectant ces normes, si jamais les normes sont vulgarisées. On va écouter Pacifique Kiet à Lubumbashi. Pacifique, merci d'être avec nous. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Pierrot, également à tous les auditeurs qui sont en train de nous suivre pendant ce moment. Mm-hmm. Pierrot, je suis personnellement désolé de la déclaration du gouverneur Julien Paluku, parce que cela est devenu monnaie courante ici chez nous en République démocratique du Congo, que lorsque il y a un accident, lorsqu'il y a un problème lorsqu'il y a un problème, c'est en ce moment-là que les gouvernants se mettent maintenant au créneau pour crier tout haut, et voilà, il y a eu ceci et cela en termes de dénonciation. Et pourtant, quand nous parlons de la gestion de la cité, nous avons également la notion de la prévention. Donc, il faut prévenir, il faut même anticiper. Et donc, lui-même, le gouverneur, devait avoir une équipe il avait déjà l'information. S'il dénonce ça aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il avait déjà des informations sur l'état de ces ponts. Parce que les ponts venaient de s'effondrer, ça va maintenant faire en sorte que les restes de la RDC soient enclavés. Oui, il n'a même pas anticipé. Pourquoi? Il n'y a pas eu, le service de contrôle n'a pas fait son travail. Le service de transport qui est là, c'est quoi? Parce qu'on n'arrive pas à respecter les normes. On bafoue tout ce qui est pris en République démocratique du Congo. Nous allons voir même plus loin, Pierrot. Ce n'est pas seulement l'affaire des ponts, même de routes, ici à Lubumbashi, au Katanga. On ne va pas continuer tout simplement à réparer les routes ou à construire des routes. Il n'y a pas que ça comme priorité. Ça, c'est de l'argent du contribuable congolais. Donc, ces services, en fait, ces entreprises qui transportent des minéraux ici, ne respectent pas le tommage. Et ça abîme des routes au jour le jour. Il n'y a pas que ça. Et les autorités sont là en train de voir. Pourquoi? Parce qu'ils veulent que les routes soient abîmées. Bon, pendant qu'ils vont commencer à réceptionner ces routes-là, ils ont aussi les fausses parts. C'est pas une bonne chose. Les ponts passifs, Piero, on avait initié ça ici au Katanga, Lubumbashi. Les ponts passifs. Mais ça n'a pas fait long feu. On a mis un terme à ça. Pourquoi? On laisse les étrangers, au lieu d'être très durs, de respecter ce que la loi dit, 30 tonnes, c'est 30 tonnes. Il faut passer 60 tonnes, c'est 55 tonnes. Et mais, comment voulez-vous que la République démocratique du Congo avance?
C'est terrible, Pierrot. La corruption qui est à la base de tout ça.
Vous l'avez suivi.
C'est la corruption qui est à la base.
Voilà, parce que notre invité a dit le respect des normes, ce n'est pas seulement le fait qu'on a déjà une route, mais il faudrait que la population elle-même soit assez informée sur les tonnages et que les usagers de la route soient assez informés. Cela veut dire le respect des normes dans la construction de l'ouvrage, mais aussi ceux qui vont utiliser cet ouvrage doivent tenir compte du respect de ces normes. Alors, est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il faudrait vraiment avoir une organisation stricte dans la gestion de ces questions des normes pour arriver quand même à créer cette harmonie au niveau de la société pacifique?
Non, pas du tout. Les gouvernants qui sont là, quel est leur travail de sensibiliser? Parce que nous avons déjà les services de transport. Pierrot, les services de transport est là. Les services-là font quel travail? Ce n'est pas seulement la perception. Non, ils ne sont pas là pour percevoir tout simplement. Ils sont là pour même faire la sensibilisation. Arrêtez même. Nous avons des services de sécurité qui sont commis un peu partout dans les frontières avant que les marchandises ne traversent en République démocratique du Congo. Mais pourquoi ils ne peuvent pas en fait revenir voir est-ce que les tonnages sont respectés ou pas? Ce n'est pas une question de chercher encore un autre service de trop, ça va encore alourdir l'administration pour rien, Géro.
Mais il faudrait les services qui sont déjà là, parce que vous pensez que tous ces services doivent être motivés. Vous avez évoqué tout à l'heure la corruption pour pouvoir surveiller, contrôler et savoir que ces véhicules qui passent sur cette route respectent les tonnages. Vous avez évoqué là dans les Katanga avec les camions qui transportent le minerai, vous estimez qu'ils ne respectent pas les tonnages, ce qui fait que les routes aujourd'hui s'abîment à peine. Qu'elles ont été soit construites, soit réhabilitées ou réparées. Bintou, vous êtes à Kinshasa. Merci d'être avec nous. Quand on regarde aujourd'hui, on sait que la plupart de nos routes sont assez muettes, et alors les gens peuvent en profiter pour faire n'importe quoi. Mais est-ce que par cas de conscience aujourd'hui, faudrait-il une personne qui est consciente, qui sait que mon camion doit transporter autant de tonnes selon les normes et les ponts que je vais traverser, faudrait-il qu'il aille au-delà parce qu'il a besoin de gagner? Et comment on peut alors interpréter cette responsabilité de la population elle-même dans les choix que nous faisons en ce qui concerne le respect des normes et surtout dans ces domaines, Bintou?
Merci beaucoup, M. Théo. Merci à toute l'équipe de Radio Okapi et puis bonjour à tous les auditeurs. Bon, pour répondre à votre question, le problème de respect des normes dans notre pays, c'est une tare. C'est vraiment une maladie dans tous les domaines. Quel est le domaine dans lequel vous allez partir en République démocratique du Congo, on respecte les normes? Il n'y en a pas. Que ce soit dans les domaines politiques, économiques, sociaux, et ainsi de suite, il n'y a pas de normes. Il n'y a pas longtemps où on venait de faire on parlait de viande pour d'une cargaison qui devait venir de la Belgique, qu'on devait déverser en République démocratique du Congo. Et qu'on a prévenu pour que l'SEC puisse faire quelque chose afin que ça ne puisse pas être consommé par la population congolaise. C'est pour vous montrer qu'il n'y a aucun domaine dans notre pays où on respecte les normes. Les normes existent, mais on les foule au pied, on ne les respecte pas. Ce n'est pas tellement la responsabilité de la population congolaise. C'est la responsabilité de l'État congolais d'abord, puisque ce n'est pas pour rien que l'État existe. L'État existe pour faire respecter les normes et les lois de la République. Alors, l'État a mis ses agents au niveau de chaque frontière. Il y a des représentants de l'État là-bas qui devaient en principe faire leur travail, mais qui ne l'ont pas fait correctement. Bon, les postes publics. Les postes publics ont vieilli depuis longtemps. Il fallait les remplacer. Les politiques congolais ont fait trop de promesses qu'ils n'ont pas tenues, qu'ils n'ont pas réalisées. Ils ont promis de réhabiliter les ponts depuis des années. Ce n'est pas aujourd'hui que les postes publics est abîmé. Moi, je connais très bien les milieux. J'ai déjà vécu, j'étais à Katindi, je connais les milliers de gens traversés ce pont là plusieurs fois. C'est un pont qui était déjà en très mauvais état, malgré que le véhicule qui est passé est allé au-delà, mais c'est un pont qui devait en principe aussi s'écrouler. Mais d'ailleurs, c'est une chance que ça ne s'est pas écroulé avant, ça vient de s'écrouler fin 2016, début 2017. Ça devait s'écrouler depuis longtemps, puisqu'il y a c'est le trafic, et cette route-là est trop fréquentée. C'est l'État congolais qui devait le faire, qui ne l'a pas fait son travail correctement. Qui peut prendre l'armement de la responsabilité qui fait? C'est vrai qu'il y a des commerçants qui passent avec des marchandises déjà de normes sur des ponts. Mais est-ce que c'est l'enfant qui doit corriger les erreurs ou c'est le père de l'État congolais qui a mis ses agents là-bas qui devait interpeller l'intéressé dans un pays normal? On devait normalement arrêter les gens qui sont à la base de la destruction du pont. Et c'est là qu'ils ont laissé ces camions là passer. Toute cette, la chaîne de commandement devait être interpellée, mais personne ne sera inquiété. Il a une parapluie au-dessus de sa tête, il ne sera jamais interpellé. Et ça va continuer comme ça. Ce n'est pas seulement les ponts Kimuliki. Si vous prenez la route Katsingi, Beni, Butembo, Butembo, Kitangai, il y a plusieurs ponts qui sont en très mauvais état. S'ils ne connaissent pas, nous naviguons souvent sur nous passons souvent sur cette route-là. Alors, il y a beaucoup de ponts en très mauvais état, plus même que de s'effondrer. Mm-hmm. Donc, on attend encore que ces ponts-là puissent s'effondrer afin qu'on puisse encore venir réparer les conséquences au lieu de les prévenir. Voilà. C'est ça l'état, c'est ça de la République du Congo. Et puis, vous savez, avec ces ponts-là, il y a trop de conséquences sur la population de l'Est, et particulièrement la population de Beni. La population de Beni vit dans une insécurité que tout le monde connaît en République d'Afrique du Congo. Maintenant, on quitte de l'insécurité et de cette insécurité, on a ajouté une nouvelle insécurité, c'est sur le plan économique, puisqu'ils n'ont plus le pouvoir d'achat pour se nourrir correctement. Ils ne peuvent pas accéder à leurs champs, mais en plus, les marchandises qui vivent à partir des petits commerces qui viennent de l'Ouganda et des autres pays de l'Afrique australe. Mais c'est là que ces fonds-là sont à terre, les prix ont doublé. À Beni, à Butembo est parti, il faut voir aussi tout l'est du pays. C'est cette route-là qui arrive à fournir l'ensemble des marchandises qui sont utilisées à l'est du pays.
Tout, mais c'est comme Patrick le disait tout à l'heure qu'il fallait prévenir, cela veut dire qu'on devait déjà inspecter les ponts pour savoir si les ponts respectent encore les normes. Et quand on se rend compte qu'il a vieilli, on devrait l'entretenir. Mais il fallait aussi qu'on ait des panneaux de signalisation pour dire voilà, quelles sont les normes, comment faudrait-il faire, quel poids faudrait-il traverser aujourd'hui, porter aujourd'hui pour traverser ces ponts. Merci beaucoup, Bintou. Valérie, vous êtes à Kindu. Alors, est-ce que ça peut être possible aujourd'hui qu'on arrive dans notre société, d'une part, avec le pouvoir des publics qui édicte des normes, et d'une part, de l'autre côté aussi, la population qui respecte ces normes pour éviter ces genres d'incidents? Valérie, bonjour.
Bonjour, Thierry Lamégi. D'abord, je présente mes condoléances aux familles éprouvées. Quand vous couplez l'émission d'hier et celle d'aujourd'hui, vous comprenez que moi, personnellement, je dois me dire que je ne suis pas protégé au Congo. Mm-hmm. Je ne suis pas protégé parce que malgré la présence des lois, on s'arrête juste à édicter les lois. D'abord, si nos emplois étaient en droit, pourquoi on a élaboré des lois? Mais c'est parce que les gens sont mauvais. C'est parce que les gens ont l'habitude toujours de pécher. C'est parce que les gens ont l'habitude de chercher des intérêts sur les autres qu'il y a des lois. Mais quand on les élabore, quand on les édicte, après il faut les surveiller. D'abord, je commence par condamner les conducteurs. Les conducteurs, pourquoi? Parce que même les propriétaires du camion, certainement qu'ils ne lui avaient pas donné l'ordre d'arriver jusqu'à 120 tonnes. Ça, c'est la cupidité des conducteurs en cours de route. C'est parce qu'eux, ils se limitent à la technicité, mais il n'y a pas d'éthique et de déontologie dans ce métier-là. Et par là, j'estime qu'il va falloir que la CNPR, qui est chargée de mettre les panneaux de signalisation, doit aussi faire son travail en province. Je ne sais pas s'il existe même en province. Moi, je suis sans province, je ne la vois pas. Elle doit travailler de concert avec la SECO pour éduquer. On doit donner un peu de leçons d'éthique à nos chauffeurs. C'est n'importe qui devient chauffeur, voyez même qu'eux-mêmes négligent leur métier une fois qu'ils s'assagent à un chauffeur, à un conducteur. Est-ce que vous savez que vous avez du bon travail? Parce que par jour, vous ne pouvez même pas manquer 20 $. Mais il y a des fonctionnaires qui vont au boulot pour ne pas avoir 100 $ à la fin du mois. C'est parce que ces chauffeurs et ces disants sont receveurs, au moins ils n'ont pas comme moi, ils n'ont pas de place. Je lui ai dit, mais bah, n'y a pas de travail, ils n'ont pas de place. Vous comprenez que quand quelqu'un ne se prend pas au sérieux, vous les verrez, ils sont dans des boissons, dans des chambres, dans de n'importe quoi, après ils étaient au volant. Même tout ça, on ne contrôle pas. Ce n'est pas correct. Uh-huh. Alors, si vous suivez ce que mon prédécesseur Bintou vient de dire, c'était ça. D'autant plus qu'il y a un honorable député national élu du Nord Kivu qui en a parlé récemment aussi, lorsque cet incident est lié, qu'il avait déjà prévu qu'on devrait déjà remplacer ces ponts. Alors, à l'intérieur, si vous comprenez bien, Nous disons que le gouvernement du Nord Kivu s'est contenté seulement de percevoir l'argent, c'est leur bingo. Ils ont gagné leur bingo alors que la population aille paître. C'est là où les bas blessent. Les 60 tonnes dont on parle. D'ailleurs, par rapport à l'état auquel se trouvait déjà ce pont, je me dis que ça ne devrait même pas être encore 60 tonnes. Parce que plus ça vieillit, plus on doit réduire même la charge. Je vous donne un exemple. Entrer dans des vieux immeubles là à Gombe, s'il était prévu 8 personnes au maximum, vous verrez que suite à la vétusté, on va réduire même à 6. Mais comment se fait-il que plus les ponts vieillissent, plus on tolère même de dépasser la charge maximale. Alors que c'est 60 tonnes, même pas une norme, mais plutôt un résultat, une réalité physique. C'est-à-dire que l'ingénieur qui a calculé a trouvé que ces ponts ne peuvent résister que si on y fait passer des charges ne dépassant pas 60 tonnes. C'est pourquoi on l'appelle charge maximale, c'est-à-dire à ne pas dépasser. Mais voilà là où nous sommes arrivés, c'est tout à fait regrettable.
Merci.
Je pense que... Okay.
Merci beaucoup Valérie. Merci Valérie. Il y a d'abord la responsabilité des chauffeurs, parce que c'est vous qui êtes sur la route, mais il y a aussi la responsabilité du pouvoir public qui doit prévenir, savoir que non, cet ouvrage ne peut plus répondre aujourd'hui aux normes, ne peut plus porter un poids très très élevé, et tout cela doit être pris en compte, comme le disait notre invité tout à l'heure, que le travail devait aussi se faire en amont plutôt que pouvoir assister à ça. Dès qu'on savait déjà que le pont était déjà dans un état de vétusté, on devait déjà commencer à surveiller les camions qui utilisent la route qui passe par ce pont. 081-890-6315 pour intervenir en direct.
Écho d'économie. Sur Radio Okapi, la vie économique du Congo a une vitrine. Écho d'économie. 18h15 heure de Kinshasa, un magazine qui prend la température. Les marchés, la vie des entreprises, le monde rural, des questions se posent, nous y répondons clairement. Les bonnes initiatives, une nouvelle idée, reportage sur le Congo qui bouge. 18h15, Écho d'économie, une émission de référence qui parle à tout le monde.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et Amis.
Docteur Toumba, nous sommes avec vous dans cette émission. Vous êtes le président de l'Association pour la promotion des métrologies et la normalisation en RDC. Vous avez suivi les uns et les autres, nos auditeurs. Quand on évoque la responsabilité citoyenne, il y a aussi cette question, par exemple, des signalisations, des panneaux qui doivent édicter les normes quand on conduit, quand on doit traverser un pont, tout cela aussi souvent, ça fait défaut. Qu'est-ce que vous répondez à tous les compatriotes qui venaient d'intervenir tout à l'heure?
Bon, je salue toutes les pertinentes interventions qu'on a enregistrées là. Ils ont tous raison. La norme peut être aussi de prévention. C'est pour cela qu'on recommande qu'elles existent. Par définition, une norme, c'est un document produit par consensus entre les experts d'un domaine bien déterminé. Alors, ce norme doit être disponible et la pertinence d'une norme, c'est au travers de son applicabilité. Et une norme n'est pas norme si elle n'est pas accessible. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a dit que les normes existent. C'est vrai qu'elles existent. Mais il faut qu'on ait des normes qui répondent aux besoins spécifiques du Congo. Mm-hmm. Nous n'avons pas les mêmes conditions que la France, que la Belgique ou les États-Unis. Les normes existent, mais doivent être contextualisées. Ils doivent répondre à nos spécificités environnementales et climatiques. Alors, je voudrais aussi souligner que la norme a plusieurs aspects. La rationalisation dont vous avez parlé, c'est l'aspect. Mais quelqu'un a donné un cas très précis là, en parlant par exemple du pont qui était déjà vétuste et qui devait être remplacé. Ça, c'est très grave. Je suis sûr que le conducteur là n'était pas à son premier essai. Il doit avoir fait une, deux, trois fois ça marche. Il a dit on continue parce que tous les temps ça marche toujours. C'est ça. Donc, tant que le pouvoir public n'a pas sonné là-dessus, le danger est toujours là.
Mais alors, dans les plaidoyers que vous menez au niveau de l'association, comment concrètement on peut quand même doter la RDC des structures ou soit de ces normes bien connues? Parce que des fois, les gens fonctionnent dans la vague. On dit, nous avons des normes dans la circulation routière, dans l'aviation, dans ceci, cela. Mais enfin, et quand il y a des problèmes,
on ne parvient pas à voir un document qui édicte clairement quelles sont les normes qu'il faudrait respecter aujourd'hui. Mais au niveau de votre plaidoyer, comment arrivez-vous à vous y prendre avec le pouvoir public pour qu'on arrive quand même à formaliser ce domaine de normes?
Merci beaucoup. La question est très pertinente. Je vous informe que notre organisation a été invitée au Sénat en avril 2011. Nous avons fait un plaidoyer et ce plaidoyer a obtenu des résultats très intéressants parce qu'il y a une proposition de loi sur la normation de la métrologie qui a déjà été adoptée au niveau du Sénat. À l'Assemblée nationale, on y a déjà travaillé et d'après les informations que nous avons, d'ici le mois de mars, il y aura une commission paritaire Sénat et Assemblée nationale pour finalement doter notre pays de cette loi-là, qui est capitale pour la survie de nos entreprises ici parce que nous sommes dans des régions, nous sommes membres des groupements régionaux qui recommandent l'utilisation impérative des normes régionales. Et si nous n'avons pas ces normes, si nous ne conformons pas ces normes-là, beaucoup de nos entreprises vont fermer. Donc il y a déjà une avancée sur le plan de la loi. Je vais juste interpeller nos compatriotes qui travaillent dans ces deux chambres de faire du visage parce que cette loi est capitale pour la survie de notre pays.
Merci beaucoup. La loi sur la normalisation, la métrologie, c'est très important pour éviter ces genres de pratiques encadrées les uns et les autres. Madame Zéphine, merci d'être avec nous. Vous êtes à Boston, aux États-Unis d'Amérique. Vous avez suivi ce débat jusqu'à ce niveau. Quel est votre point d'intervention, madame? Bonjour et bienvenue.
Ah, bonjour Pierrot, hein. Merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Pierrot, je vais dire ceci. Vous savez, hein, si c'était dans d'autres cieux, ce qui est arrivé au pont de la route Nili, il y aurait déjà des démissions, hein, en commençant par les ministres des transports national, les ministres des transports local et toute sa suite. Même le gouverneur qui a parlé, c'est une honte. Mais au Congo, vous remarquerez que les gens ils sont plus sensibles, ils n'ont plus honte, ils font ce qu'ils font et ils s'en foutent de la population. Le pont, ou bien le route, vous savez, même si aux États-Unis, il y a moi je suis dans le domaine des transports, il y a des accidents sur le pont. Mais c'est quelle sorte d'accident? C'est seulement l'auteur du pont. Hein? Il y a des chauffeurs de camions qui ne regardent pas même les signes. Parce que quand vous faites un accident comme ça, le policier viendra, la première chose, le policier va te demander, est-ce que tu n'as pas vu le signe? Sur un pont comme celui-là, on devrait avoir des signes même à 10 km. À 10 km déjà, on commence à poster les signes pour dire que ce pont-là supporte tel poids. À partir de 10 km, maintenant, on divise 5 km, 2 km et demi, 1 km, 500 mètres, et puis jusqu'à ce que vous arrivez au pont, il doit y avoir des signes, il doit y avoir des endroits pour tourner. Si votre tonnage est plus que ce qui est prévu pour passer sur le pont, là, vous devez tourner et rentrer, chercher une autre route. Vous savez, au Congo, le Congo, c'est un pays industriel. Mais quand vous arrivez, il n'y a pas de route. Monsieur Pierrot, si vous arrivez à Kachumbalesa, vous allez vous dire, mais où est-ce que ce camion avec ce poids passe? Il n'y a pas de route. Je vais comparer le Congo comme l'état des droits, là où on fait le véhicule. Donc on prend le camion avec un pont arrière qui a au moins 16 à 22, ce que j'ai vu au Congo. Et puis ce camion-là ne roule pas dans d'autres régions, ça roule seulement là-bas, parce qu'ils ont des routes, ils prennent des histoires très lourdes, comme au Congo là. Il n'y a pas de route, premièrement. Alors, je vais rentrer pour dire, quand on parle d'un état de droit, mes chers amis, nous devons rentrer dans un état de droit. Le route et le pont, il doit y avoir l'État doit créer, c'est ça même l'occasion pour créer l'emploi. C'est ça même, sur chaque pont, il devait y avoir des gens qui devaient contrôler. Sur la route là, il y en a, mais au Congo, Si vous passez seulement avec votre camion, le camionneur la paye. De Kachumbalé jusqu'à Lubumbashi, vous allez voir qu'il y a 4-5 barrières. Les gens payent. Vous voyez comment vous payez votre taxe. Le taxpayer là, il prend l'argent, l'agent payeur, il prend l'argent à qui on paye l'argent, il met dans sa poche. Le gouverneur là, si vous allez, il a tout le droit, il a tout le droit dans son bureau, on lui verse l'argent, il met ça dans sa poche. Mais dans un état de droit, vous ne verrez pas comme
ça. On ne peut pas se comporter comme ça. Il faut quand même qu'on arrive aujourd'hui à avoir des voilà. Merci beaucoup, madame. Vous avez un élément important. Merci beaucoup, madame. Vous avez dit un élément très, très important qu'il faudrait savoir qui contrôle le poids idéal de tous ces camions poids lourds qui circulent sur les routes. On a parlé du Katanga, les routes à l'est qui traversent les ponts. Tout cela doit être organisé. Des normes doivent être respectées. D'abord, comme le disait notre invité, quand on érige les infrastructures, aussi quand on les utilise, on devrait respecter les normes. Michel, merci d'être avec nous. Vous êtes le président du conseil national, du conseil d'administration de la Corporation des ingénieurs des travaux publics, je crois bien. Merci, vous êtes avec nous, Michel. Bonjour.
Bonjour, monsieur Pierrot.
Voilà, vous avez suivi à ce niveau du débat cette question des normes, que ce soit pour les routes, que ce soit pour les ponts. Notre invité a dit, est-ce que les routes qui sont construites, les ponts qui sont érigés aujourd'hui, est-ce que la norme est respectée déjà dans l'élaboration pour qu'on sache vraiment que même les usagers pourront aussi respecter cette norme et que les ouvrages puissent être protégés, qu'ils puissent aussi assez durer. Et vous qui êtes dans ce domaine de construction, est-ce que vous avez cette impression que la plupart d'ouvrages qui sont aujourd'hui érigés dans notre pays, que ce soit les routes, les ponts, les normes du domaine sont respectées pour que les ouvrages puissent assez durer et que les usagers soient aussi informés de ces normes?
Merci beaucoup, M. Pierrot. Je salue la présence du président Bertrand Touma de la promène dans cette émission. Je suis aussi membre de la promène. Mm-hmm. Et en plus, je suis aussi membre du comité technique d'harmonisation des normes de construction et génie civil de l'Organisation africaine de normalisation, M. Touma le sait. Et à ses qualités, je peux bien vous dire, malheureusement, M. Pierrot, que notre pays ne dispose vraiment pas d'un arsenal de normes dans le secteur de la construction. Mmh. Il n'y en a pas. Et nous sommes en train de travailler là-dessus et nous félicitons au passage les efforts de Bertrand Touma, notre président, qui est en train de se donner tous les efforts pour sensibiliser aussi bien les décideurs politiques et l'opinion publique, en ce qui concerne les aspects de la normalisation. Et il a beaucoup parlé sur l'aspect normes de construction, normes d'exploitation. Et je vous dis qu'on n'en a pas. Et les quelques rares normes que nous avons, la difficulté c'est que nous ne les exploitons même pas. Mais je voudrais beaucoup plus prendre un aspect, M. Pierrot, qui jusque-là n'a pas été fait l'objet du débat dans le cadre de cette émission. C'est l'aspect de la durée de vie d'un pont. Quand on construit un pont, il n'est pas éternel. Le pont a une durée de vie. Et d'après les informations que nous avons, ce pont a été construit en 1952. Mmh. Donc, si nous calculons aujourd'hui, il y a 65 ans à peu près, où ce pont a été construit. Est-ce que depuis qu'on a construit ce pont, on a mené des activités d'auscultation de ce pont, c'est-à-dire observer, faire des observations régulières sur le pont pour voir quelles sont les déformations que le pont a subies suite à l'exploitation. Et surtout que à 65 ans, le pont est déjà au-delà de sa durée de vie. Et en plus, nous savons que c'est un pont de type modulaire, un pont qui ne peut pas aller au-delà de 50 ans. Or, si on aurait fait des auscultations régulièrement sur ce pont-là, on se serait rendu compte que le pont accuse déjà de certaines, dû à l'exploitation, quels sont les remèdes qu'on pouvait apporter à ce pont pour les rendre encore beaucoup plus efficaces. Je ne pense pas que cela aurait été fait. Donc, cela est dû aussi au fait que dans ce pays, nous n'avons pas un organe national qui s'occupe de la gestion des trafics. Dans tous les pays, dans la plupart des pays africains, et je peux prendre en compte beaucoup de pays anglo-saxons comme la Zambie, l'Afrique du Sud, la Tanzanie, et ainsi de suite, vous avez un organe national qui s'occupe de transport routier et de la sécurité routière. Je sais que nous avons le CNPR,
oui.
Qui n'est que le CNPR. et qui ne gère que certains aspects de la sécurité routière, mais même l'exploitation de nos routes, même l'occultation de ces ponts, c'est-à-dire des vérifications régulières pour voir si les ponts sont encore servis, quelles sont déjà les dégradations qu'ont subi les ponts, on aurait détecté à temps pour dire que ce pont ne peut plus être utilisable. Mm-hmm. Voilà, malheureusement, mm-hmm. c'est là,
mais,
ce qui pouvait être évité.
Voilà.
Le problème est d'occultation régulière des ouvrages d'art. Ce sont des ouvrages qui ont été construits pour une durée de temps. On doit les occulter. On doit veiller sur ces ouvrages et assurer la réparation régulièrement pour éviter que de telles catastrophes nous arrivent.
Mais voilà. Alors, mais du côté maintenant de la population, parce que nous avons aussi évoqué la responsabilité citoyenne, mais les citoyens, ils ont quand même aussi, quand vous exploitez une route ou soit un pont, quand vous vous rendez compte avec votre camion que le camion a des difficultés à traverser les ponts, ou le pont, il est en train déjà de basculer ou décéder petit à petit, on peut le découvrir. En tant que citoyen, on a aussi une certaine responsabilité dans les actes qu'on doit poser.
Absolument, absolument. C'est pourquoi j'ai parlé des organes ou de l'agence ou de l'organe de gestion de trafic. Ces genres d'organes comme le RTSE, le Road Transport and Safety Agency de la Zambie, s'occupent de ces aspects des choses. Donc il y a ce qu'on appelle l'aspect éducation de la population. La population doit être sensibilisée pour comprendre les dangers. Et il y a ce qu'on appelle aussi les aspects de law enforcement. C'est-à-dire, si la population, qui est déjà sensibilisé, ne respecte pas, il y a des mécanismes pour réprimander des actions qui sont contraires aux actions régies.
Voilà, c'est toutes ces mesures qui doivent être prises d'une manière globale dans leur considération. Merci beaucoup, ingénieur Michel, d'avoir été avec nous et surtout de nous avoir parlé avec toutes ces précisions. On n'a pas un arsenal aujourd'hui des normes dans notre pays. Et comme le disait tout à l'heure, la proposition des lois se trouve au niveau du Parlement. Notre invité venait de le dire. Cela peut arriver quand même à organiser le domaine des normalisations et c'est comme ça qu'on peut bien se retrouver. Alors, revenons à vous, Bertin Toumba. Est-ce que dans le plaidoyer que vous faites, au-delà même du fait qu'on n'a pas encore eu cet arsenal des normes, est-ce que vous vous battez quand même pour que les normes qui existent déjà, il y en a qui sont, comme vous l'avez dit, internationales, régionales, pour que ces normes soient prises en compte, que ce soit dans l'érection des ouvrages, mais aussi auprès de la population qui les utilise?
Merci beaucoup pour la question. Je voudrais avant toute chose remercier l'ingénieur Onyumbu qui est un de nos membres les plus actifs et les plus compétents que nous avons. Je voudrais profiter de l'occasion pour dire ceci. Notre plaidoyer consiste surtout à démontrer le caractère citoyen de l'activité normative. Mmh. Ici, il faut faire un distinguo entre les normes comme règles. De manière générale, quand on dit normes, on fait allusion à toutes règles. Qui conduit à la sécurité, à la qualité, tout ça. Mais les normes dont il est question, pour lesquelles nous sommes en train de faire notre plaidoyer, c'est les normes qu'on appelle les normes consensuelles. Ces normes-là résultent d'un constat qu'il y a un problème qui se pose de manière récurrente, mm-hmm. comme le problème auquel on est confronté là. Voilà un point qui est fondé. Voilà les dégâts qui sont causés dans la communauté. Que faut-il faire pour que ce genre de problème se pose encore.
Mm-hmm.
La foule de Marx qui interpelle toutes les parties prenantes de la société. La même consensus dont nous parlons, elle est développée au niveau international, au niveau régional, au niveau national. Et au sein d'une structure qu'on appelle Organisme National de Normalisation. Ces normes résultent de la satisfaction d'un besoin qui a été exprimé. Un besoin de sécurité, un besoin de qualité.
Mm-hmm.
Dans le cas du constitution, tout à l'heure quelqu'un a dit qu'il faut interpeller la population, c'est vrai. Mais dans l'élaboration des normes, dans le processus d'élaboration des normes, même la population est impliquée. De telle sorte que quand la norme sort, personne ne peut dire qu'il ne la connaît pas.
Mm-hmm.
Dans la normalisation, il y a ce qu'on appelle les parties prenantes. Il y a le pouvoir public qui est responsable de la sécurité, de la santé de l'environnement dans le pays. Il y a le secteur de la recherche et de l'enseignement supérieur, là où il y a des chercheurs, des ingénieurs comme mon frère qui est Michel qui a parlé tout à l'heure. Ils sont interpellés. Il y a les ONG, il y a les associations de consommateurs, il y a les associations des ingénieurs, il y a tout le monde qui est intéressé par le sujet.
Mmh.
Et dans ce processus-là, il y a une étape importante qu'on appelle l'étape d'enquête publique. Cette proposition de normes, elle est
diffuser l'argument dans le pays, quand il s'agit d'une norme nationale. Mm-hmm. C'est en sorte qu'aucune personne ne peut prétendre n'avoir pas l'information de cette norme-là. Après cette enquête-là, dont la durée dépend d'un pays à l'autre, au Maroc par exemple, 3 mois, il y a des pays où c'est 6 mois et 6 mois. On donne à tout le monde le temps d'intervenir, parce que nous ne voulons pas assister à des mêmes problèmes.
Mm-hmm.
Alors, cette norme-là, si elle est établie, elle peut servir de référence aux autres pays et même aboutir à être une norme internationale. Mm-hmm. Mais l'initiative norme est de tout le monde. Dans une société organisée,
mm-hmm.
toute personne peut prendre l'initiative d'une norme. Quand un problème se pose de manière récurrente, à ce moment-là, personne ne peut dire qu'il n'est pas informé. Il faut faire la part entre la norme et les textes réglementaires. Quand il y a des arrêtés qui existent, des lois qui existent, ça sont des textes réglementaires qui sont d'application obligatoire. Une norme, par principe, est d'application volontaire parce qu'elle est l'émanation de la société dans son entièreté.
Mm-hmm.
La société organisée au travers des parties prenantes.
Oui.
Je sais que dans la société, on doit se retrouver quelque part dans un groupement. Association d'ingénieurs, association de médecins, association de consommateurs. Et ce sont des problèmes. C'est tout ça que quand la norme est établie, elle est diffusée par tout le monde, parce que toute partie prenante est impliquée a l'obligation de la diffuser en ce milieu. Parce que elle intervient pour l'intérêt de la société dans sa globalité.
Mmh.
Voilà
ouais.
On
va écouter l'ingénieur Bassiki Saki Sangali. Ingénieur, bonjour. Vous avez suivi ce que notre invité vient de le dire par rapport aux normes consensuelles. Il y a un problème qui se pose. Les problèmes des ponts, les problèmes des routes, les problèmes des tonnages sont des problèmes qui sont récurrents, qui reviennent. Alors lui, il estime qu'il faudrait qu'on ait une prise de conscience que c'est un problème et face à ce problème, il faut qu'on trouve des solutions. Quel est votre point de vue, ingénieur Bâtier?
Merci, Radio Capi, de m'avoir encore passé la parole. Je salue tous nos compatriotes qui nous suivent dans le pays et partout dans le monde. Monsieur le journaliste, par rapport à ce sujet, c'est vraiment intéressant. Vous savez, on est en train de dire les problèmes des normes. Non, ce n'est pas les problèmes des normes. Moi, je peux dire que la cause principale de cette situation, c'est l'inefficacité des services de l'État qui sont affectés dans cette région pour réglementer les transports des biens et de la population. Vous savez, monsieur le journaliste, dans la zone, si vous avez par exemple la Kassindi, parce que les ponts civiques, je pense que c'est à PK 30 km de Béni, vous savez, quand un véhicule quitte, si c'est parti de l'Ouganda, en principe, l'OFIDA doit avoir déjà dans les lettres de transport le poids que le véhicule a transporté. Sinon, il y a aussi, si le véhicule a été chargé sur place à Kassindi, il y a le service de l'ANR qui donne même il y a même des petits fonds pour les transports de chargement des biens. Vous savez, tout ça ne fonctionne pas. Vous voyez même les gens qui devraient plus réglementer les transports des biens. Non, ils ne prennent plus compte de ça. Vous voyez, par exemple, les policiers, les polices qui sont affectés pour les réglementations de la route, ils se contentent seulement de leur rapport. C'est-à-dire qu'un véhicule qui était chargé, c'est 100 tonnes ou 120 tonnes, il suffit de lui donner leur rapport. C'est ça leur préoccupation. Vous voyez, mm-hmm. c'est le problème
de l'efficacité. Alors, vous estimez déjà que quand il y a déjà de règlements, si par exemple, s'il y a des normes, si on dit qu'on ne peut pas avoir autant de tonnage sur une route, sur un pont, c'est une question de l'efficacité de services publics, que ce soit à Kassindi, que ce soit à Béni, que ce soit au départ, à l'arrivée partout, il y a des barrières. Madame, je le disais tout à l'heure, et toutes ces barrières devaient, c'est garanti, il y a des formulaires qu'il faut remplir pour qu'un véhicule puisse passer, qu'on se rassure vraiment que ces véhicules respectent les tonnages recommandés. Et pour vous, le problème, c'est pas les normes, mais le problème, c'est l'inefficacité des services au public. Maître Armel, vous êtes à Goma. Merci d'être avec nous. Bonjour.
Bonjour, Pierrot.
On vous écoute, maître.
En fait, oui, j'ai bien suivi avec pertinence les interventions de mes prédécesseurs, que je salue. J'ai noté que plusieurs sont revenus sur une existence, disons, d'organes qui soient chargés de l'exécution des mesures, disons, légales et réglementaires, ou peut-être la diffusion des lois. Hein, j'ai un peu dessiné cela dans. Qui a été dit, mais je pense, là j'ai devant moi l'arrêté interministériel de 2014 qui traite de la question qui porte mesures de protection du patrimoine routier national. Et je pense qu'il y a des mesures qui, si elles étaient réellement appliquées, ça pourrait aider à ce que nous ne puissions pas connaître ce genre de cas. Mais comme mes prédécesseurs ont eu à le dire, trop souvent, chez nous au Congo, il y a une sorte d'indigestion législative, si je puis ainsi le qualifier. C'est-à-dire nous prenons des lois, nous prenons des mesures parfois d'application de lois, mais leur exécution ne sont pas réellement mises en œuvre. Vous avez des services qui sont là et qui sont des services qui ne figurent que au passage des véhicules. Ils sont là, comme quelqu'un venait de le dire tout à l'heure, pour voir premièrement leurs propres intérêts. Ils mettent un peu, ils sont soudoyés, ils mettent de l'argent dans la poche, mais la protection, comme cet arrêté de 2014 le dit, du patrimoine routier national n'est pas vraiment assurée. Et là, la question qui vient maintenant, c'est la responsabilité qui est largement partagée, parce que la plupart des gens chez nous au Congo qui se retrouvent dans des coins comme un point stratégique, donc comme le point de Kassoundi, ce sont des gens qui sont trop souvent sous recommandation des personnalités politiques. Il y a pas que le gouverneur, parfois des ministres nationaux et provinciaux qui désignent que non, moi je voudrais que tel soit là, parce que c'est mon frère ou c'est ma soeur. Et donc, la conséquence, c'est que quand il y a un dégât, quand il y a un problème comme celui-ci, et qu'on doit établir les responsabilités, ne sont pas établies, parce que les responsables, les animateurs des services ont peur parfois de ces agents-là qui ont été recommandés par certaines autorités. Donc je pense qu'il faudrait qu'on quitte ces stades-là où au Congo on prend des lois, mais dans leur exécution on ne va pas jusqu'au bout, la logique, c'est-à-dire doter les services de matériel nécessaire, mais aussi en plus de cela, les gens qui sont là qui ne sont pas des figurants, si vous êtes agent fonctionnaire de l'État, vous avez une responsabilité vis-à-vis de l'État. Et c'est de cette manière-là, c'est en faisant ce cela, en appliquant d'abord les lois que nous avons, que les choses peuvent changer. Parce qu'on peut bien prendre d'autres mesures. J'ai entendu tout à l'heure le représentant qui parlait du mécanisme de régulation d'harmonisation sur la météorologie. Il a parlé. Donc, mais on peut bien prendre cela demain. Mais qui vous dit qu'elle sera appliquée réellement et qu'il y aura protection? C'est un problème qui est généralisé. Donc il n'y a pas que ce pont. Il y a le petit pont qui passe au niveau de Mobambiro, qui mène vers le Machis. Ça fait plus d'une année que ce pont-là s'est cassé pratiquement. Et on a essayé de mettre quelque chose à côté, mais il n'y a pas de mesure. Et pourtant, le Fonds national d'Angleterre au téléphonaire, il récupère, il y a toujours le péage qui fait sur la plupart des services-là, mais l'exécution ne sait pas quelle est la destination du fonds. Voilà un peu qui est l'intérêt à prendre.
Merci beaucoup, Maître Armel. Vous avez interpellé les uns et les autres, surtout vous êtes revenu à ce que notre invité disait tout à l'heure par rapport à la proposition des lois. Est-ce que si on veut, on aura cette loi, est-ce qu'on va faire respecter les normes qui seront dictées? Parce que le problème aujourd'hui, c'est la conscience, que ce soit du côté du pouvoir public, du côté de la population, et les uns et les autres, qui puissent arriver vraiment à pouvoir éviter les trafics d'influence par exemple. Et c'est pas seulement ce pont, mais c'est l'ensemble de beaucoup de ponts comme ça à travers le pays, des infrastructures routières aussi qui subissent la foudre du non-respect des normes établies. Vous avez été nombreux. Alors nous revenons à vous, Bertin Toumba. On a suivi les uns et les autres. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir en conclusion de cet échange, que ce soit du côté du pouvoir public ou bien du côté de la responsabilité citoyenne dans le respect de ces normes pour protéger les patrimoines, comme le disait Maître Armel tout à l'heure?
Je salue l'intervenant qui a parlé de la responsabilité des pouvoirs publics. Il a raison. Les pouvoirs publics, c'est eux qui nous doivent nous garantir la sécurité et la protection de l'environnement. C'est eux les premiers responsables. Je reviens encore au rapport de notre plaidoyer qui consiste à cette pratique efficace de la normalisation, parce que ça touche à tous les domaines d'activité. Aujourd'hui, beaucoup de Congolais sont malades sous le couvre d'AVC, parce que nous sommes aussi confrontés à ce problème de pollution sonore. Dans nos quartiers, les gens ne se reposent pas la nuit. C'est le moment où les gens doivent se reposer, tout ça. Il y a ce problème les pollutions sonores, les églises et les débits de boissons. C'est un problème sérieux. Nous avons beaucoup de cas de maladies dus à ce genre de problème. Donc, j'interpelle nos autorités en premier lieu et toutes les parties prenantes de la société, notamment la Société des Assurances des Ingénieurs, de l'Action, toutes les structures organisées, qu'on puisse se mettre ensemble. Bientôt, il y a une série d'actions que nous allons mener. Ils seront contactés parce que nous devons faire de la mémorisation vraiment un outil de travail pour tout le monde. Ici, je voudrais souligner quelque chose. Notre association s'appelle l'Association pour la promotion de la normalisation de la nécrologie. Nous parlons plus de la normalisation que de normes. Pourquoi? Parce que la normalisation, c'est un processus. Il faut d'abord que les normes existent. Ces normes-là doivent être suffisamment diffusées. Vous n'allez pas aujourd'hui condamner quelqu'un d'avoir pas respecté un texte qu'il ne connaît pas. Donc, même la normalisation, c'est la norme. Elle est élaborée, elle est suffisamment diffusée et elle est mise en œuvre. La normalisation, c'est un processus qui doit amener à un changement.
Oui.
Parce que les gens connaissent les exigences de l'art. Parce qu'ils sont suffisamment informés de ça. Parce qu'ils en connaissent la nécessité. Et tout le monde travaille pour faire en sorte que ces normes soient effectivement appliquées, mises en œuvre. C'est là qu'il y a le processus de normalisation.
Mm-hmm.
Et ce processus évolue avec la technologie, avec l'environnement et tout ça. Ça, c'est très important.
Merci.
Je voudrais juste interpeller nos autorités.
Merci.
Quand les normes existent, il faut prendre référence aux normes pour faire des textes réglementaires qui sont importants pour la sécurité publique.
Merci beaucoup, M. Bertin Touba. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le président de l'Association pour la promotion des métrologies et la normalisation en RTC. Merci de nous avoir accordé de votre temps. Merci aux auditeurs. Vous avez été très nombreux à commenter ce sujet. Et dans les débats, c'est pour suivre la page de Facebook des Paroles aux auditeurs.
Allô? 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 Qui ne répond pas?
On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Merci à toute l'équipe qui nous aide à produire ce magazine. Sylvain Matondou était à la mise en onde, Julie Fézabongonda au standard, Gilles Lungembo était à la coordination et à la réalisation. Pierre Lamendou vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebouzangue. On retrouve Paroles aux auditeurs sur www.radiocapi.net. Merci, au revoir à tous.